à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Isabelle Spack, je suis l'auteur d'Une allure folle, récompensée par le prix de soutien à la création littéraire Henri Amic. Henri Amic a écrit un très joli livre de souvenirs sur George Sand. En 1873, tout jeune homme de 20 ans, il lui avait envoyé une lettre pour lui dire son admiration. Elle lui a répondu, l'a reçue à plusieurs reprises chez elle à Nohant. Henri Amic devient vite l'un des rares familiers de la maison où l'écrivain voulait que chacun soit libre de faire ce que bon lui semble sans s'occuper d'elle. Dès son premier séjour dans le Berry, Amic fait connaissance avec les petites filles de George Sand, Aurore et Gabrielle, qui appellent leur grand-mère « bonne-mère ». Il rencontre Maurice, son fils, très occupé par son théâtre de marionnettes, les figurines sculptées par lui et habillées par sa mère. La femme de Maurice, Madame Maurice, écrit Amic, est apparentée avec le sculpteur Jean-Antoine Houdon. Elle est gentille, enjouée, mais handicapée par une vue basse corrigée par des verres épais. Amic raconte que George Sand était une femme très douce avec de toutes petites mains, qu'elle peignait pour se libérer l'esprit de l'écriture, prenait rarement la parole lors d'assemblées trop nombreuses, préférant les tête-à-tête plus sincères. Elle adorait les fleurs au point de se montrer très maladroite, elle qui ne l'était pas, dès qu'il s'agissait de couper une rose de son jardin pour l'offrir. Dans le jardin de Nohant, il y avait des gerbes d'or, des nigelles de damas, des ancolies sombres, des anémones d'automne d'un blanc rose. Il y avait des pavots, des coquelicots simples, doubles, unis, dentelés, de toutes les formes. Il y avait aussi des héliotropes, des résédas, des némophiles. Et j'ai perdu ma deuxième page. Ces plantes couvre-sol sont pourvues de pétales bleus à cœur blanc si tendre qu'on les surnomme, je crois, des pupilles de bébé. Quant au mimulus, dit aussi mimule, fleur pétaradante, jaune, orange foncé ou crème, elle se colore de taches rouges comme des masques de clown. Il en suffit de deux gouttes en décoction sur la langue pour affronter les peurs qui nous submergent. Rien n'indique qu'Henri Amic ait fait usage de ses fleurs de courage quand il a demandé à George Sand de lui donner son avis sur une pièce de théâtre qu'il venait de composer. « Vous êtes doué, vous écrivez facilement et votre style est pur », lui répond-elle après avoir lu son œuvre. « Mais cela ne suffit pas. Avant de songer à produire, il faut apprendre, piocher ferme et toujours. » J'adore cette expression. Piocher ferme et toujours. Elle dit bien l'aspect tâcheron du métier d'écrire. Il ne s'agit pas seulement de faire des phrases, mais de dire des choses, avoir vécu, éprouver des émotions, s'être nourri de la vie avant de pouvoir en parler. Si nous comparons votre esprit à un ballon, mon enfant, prenez soin de le remplir, conseille George Sand. Remplissez tout ensemble la tête et le cœur. La littérature n'est rien d'autre que l'histoire de la vie. Être récompensé, comme je le suis, d'un prix en l'honneur d'un écrivain qui a reçu de son aîné de telles recommandations me réjouit. Il n'est pas si fréquent non plus qu'un jeune homme, auteur en devenir, vienne chercher du réconfort auprès d'une femme de lettres de 71 ans qui dut, pour exister dans le paysage littéraire de son temps, masculiniser son prénom. Autre raison, et non des moindres, d'être si redevable à ce prix Amic et à l'entremise bienveillante de Frédéric Vitoux qui me l'a fait obtenir. George Sand, sans le S, était l'une des rares femmes écrivains que mon père me faisait lire, si ce n'est la seule. Non que mon père fût misogyne, il ne l'était ni dans la vie ni dans ses lectures. J'ai fait un portrait de lui dans « Ça ne se fait pas », début d'une trilogie consacrée à ma famille et publiée comme Une allure folle aux éditions des Équateurs. Mais il était ce que l'on nomme un 19e-iste, et au 19e siècle de George Sand, rares étaient les romancières. Papa ne m'a pas fait lire les sœurs Brontë. Mes lectures féminines préadolescentes se limitaient à la lecture des Mourons Rouges de la baronne Orsi, son nom de plume aussi romanesque que ses romans de cap et d'épée. Leur héros, sœur Percy, mi-Robin des Bois, mi-Zorro, sauvait les aristocrates de la guillotine. Bien sûr, je tombais amoureuse de Sœur Percy. Je dévorais les 10 épisodes, les uns après les autres, regroupés par deux dans la collection de poches des éditions Marabout. Le dessin de la couverture immuable, excepté pour ses coloris. Un écarlate très dense pour le tome 1, pervenche pour le tome 2, moutarde pour le 3, vert tendre pour le 4e tome et du lilas pour le 5e, mon préféré, celui qui regroupe le triomphe du Mouron Rouge et le Mouron Rouge conduit le bal. Sur les couvertures Marabout, Sœur Percy est représentée avec une perruque poudrée, une lavalière en dentelle, un costume de soie perle, redingote à mi-cuisse et pantalon aux genoux, fleurette dégainée, une main qui écarte délicatement le rideau de théâtre derrière lequel, à moitié, il se dissimule. Dans l'ombre, son visage est à peine esquissé. Le Mouron Rouge était-il de la littérature? La baronne était-elle un grand écrivain? Difficile de médire sur ces aventures qui m'ont tant enchantée, fait voyager, vibrer, tomber amoureuse pour la première fois d'un personnage. Comme je l'explique dans Une allure folle, roman inspiré par l'existence dissolue de ma grand-mère Mathilde et la naissance illégitime de ma mère, à une époque où être une enfant naturelle était la pire des choses, surtout dans la bonne société qu'elle fréquentait, c'est à mon père que je dois d'avoir très tôt confondu la littérature et la vie. Nous vivions entourés de livres. Dans chacune de nos maisons, jusqu'à l'appartement où mon père est mort au pied de sa bibliothèque, une balle dans le cœur tirée par maman, les livres couvraient les murs. Et comme tous les bibliophiles, mon père prenait un soin maniaque de ses acquisitions. Il achetait le plus souvent par correspondance, lors de ventes aux enchères, ou chez des libraires qui lui envoyaient leurs catalogues. Je me souviens de lui, assis à son bureau, crayon à la main, en train d'annoter les fascicules. Notule par notule, il cochait ou non, parfois assortissait d'un petit commentaire avant de se décider, de découper les bons de commande, les glisser dans une enveloppe, y coller un timbre. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, le facteur apportait des paquets, plus ou moins consistants selon le nombre de volumes et le succès des enchères de papa. Un autre cérémonial commençait. Mon père débarrassait les livres de leurs emballages, posait chaque volume sur leur tranche par petits groupes. Les livres restaient comme ça en attente avant que mon père ne badigeonne les reliures d'un cirage laiteux, ne les lustre au chiffon. L'ensemble de ces opérations durait plusieurs jours, puis il réfléchissait à la place qu'il allait attribuer à ses nouveaux venus dans les rayonnages de sa bibliothèque, les plus précieux rangés derrière son bureau, dans une armoire vitrée et fermée par un verrou cranté dont il dissimulait la clé. Les autres, rangés selon je ne sais quel ordre, était-ce alphabétique, sur les étagères qui couraient du sol au plafond. Les plus hautes, atteintes grâce à une échelle en acajou, munies de deux crochets qui permettaient de l'accrocher à une barre de cuivre qui courait tout autour de la pièce. J'aimais particulièrement ce lieu isolé du reste de la maison par un système de double portes espacées d'une trentaine de centimètres, l'une capitonnée. L'immense bureau anglais à deux faces de mon père occupait un bon tiers de la pièce, éclairé par deux immenses fenêtres à guillotine qui donnaient l'une sur le cèdre, l'autre sur l'allée pavée conduisant à la rue. Le vieux meuble trônait, son plateau recouvert d'un cuir patiné presque brillant tant il avait servi, ses contours délimités par une double frise, la première dorée à la feuille, l'autre en cuir repoussé, creuse et bosse formant un relief sur lequel je laissais courir mes doigts. Car avant d'en hériter à la mort précoce de mon père, ce secrétaire était un domaine partagé. Mon père ayant alloué un tiroir à ses trois filles, celui du haut à gauche face à lui, pour que nous puissions y ranger nos dessins, nos crayons, nos trésors comme il le faisait de son côté avec ses secrets. En lisant le beau texte d'Henri Amic, j'ai découvert que non seulement mon père partageait l'adoration des jardins avec George Sand, comme elle, il passait des heures à planter, déplanter, dessiner les contours d'une plate-bande, en restructurer une autre trop à l'ombre, à repiquer selon les hauteurs, les couleurs, à ménager les équilibres entre les vivaces et les annuelles, les bulbes, les semis, les dahlias déterrés à la fourche chaque automne. Dans son jardin, comme dans celui de l'auteur de La Mare au Diable, il y avait des nigelles, des ancolies, des héliotropes, des coquelicots et de gros pavots rouges. Mais j'ai appris aussi qu'il avait fait le choix, comme George Sand avec sa petite Aurore, de partager sa table de travail. Le très grand bureau tout en chêne de George mesurait précisément 2,60 m de long, selon Henri Amic. L'écrivain avait installé Aurore à droite, du côté de la fenêtre, parce que c'est plus gai. livres et les papiers sur la plus large des trois tablettes, les plus étroites dévolues au bibelot, dont un éléphant en porcelaine et des échantillons minéralogiques. Mon père, lui, sur son secrétaire double face, travaillait sous le regard de verre d'un bébé crocodile empaillé. Dieu sait où se trouve cet animal aujourd'hui.